Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Prendre soin de l'humain, un des trois piliers de l'éthique permaculturelle avec prendre soin de la nature est créer et partager l'abondance. Mais s'il est un humain dont il est important de prendre soin, c'est d'abord soi-même. Sinon, comment être présent pour les autres et comment être présent longtemps? Or, la vie simple, la culture de la terre, si on n'y fait pas attention et si on n'a pas les bonnes techniques, peuvent vite devenir éreintantes, littéralement. C'est aussi un des sens d'une installation bien pensée, l'ergonomie. L'ergonomie du lieu, l'ergonomie des outils. Qui veut aller loin ménage sa monture, c'est un peu notre sujet du jour avec Titane Ouben à la technique. Bonjour Titane.
Bonjour.
Hélène Hollard.
Bonjour.
Et Meïna Vernet du jardin de Top Model, qui est bientôt une pensionnaire de cette émission. Mais ça ne nous gêne absolument pas. Bonjour Meïna.
Bonjour.
Mais d'abord, c'est le moment des réponses à vos questions, questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez bien sûr encore adresser à questions, au singulier questions, @radioperma.org. Alors, une question qui nous vient d'abord d'une dame, je crois, qui s'appelle Isa Tsab. Bonjour à tous, je cherche à diminuer la consommation du plastique et remarque que nous en utilisons pas mal aussi au jardin. Avez-vous des astuces pour les semis et les boutures sans utilisation de pots ou récipients en plastique? Qu'utilisez-vous qui soit efficace, pas cher et facile à fabriquer ou trouver? L'année passée, j'ai essayé des récipients biodégradables, mais ils me semblaient moins efficaces. Le plastique porterait-il plus de chaleur pour les semis? Alors, le plastique, c'est fantastique?
Alors, le plastique, non, c'est pas fantastique. Bon, ceci dit, quand on utilise du plastique qui existe déjà et qu'on a à disposition, on peut l'utiliser. C'est vrai que sur les semis dans des godets en plastique, ça garde généralement mieux l'eau, effectivement, et la chaleur que des contenants biodégradables qui sont généralement très déshydratants et qui, à la plantation, vont demander d'être complètement ouverts, perforés, ou alors qui, au contraire, quand ils sont arrosés, vont se désagréger tout seuls quand on les a dans sa cuisine. Pour ce qui est d'utilisation d'autres matériaux, et ben les rouleaux de papier toilette, par exemple, pourquoi pas, le papier journal, on peut faire des pots avec, toujours en modérant l'arrosage à ce moment-là, mais c'est possible également.
Les boîtes d'œufs aussi?
Oui,
carton. Ça se fait d'utiliser des boîtes d'œufs à récupérer.
Pour les petites graines.
Oui, ouais. Après, on n'est pas obligé de faire beaucoup de plantations. Mm-hmm. On peut faire un maximum de semis direct et puis avoir des petits pots en terre aussi. Moi, j'ai quelques petits pots en terre pour les tomates, là où on n'a pas le choix.
Certains cajots aussi, parce que mon oncle est horticulteur, et je sais qu'il y a pas mal de semis. Quand il doit faire beaucoup de semis, par contre, ça c'est le contraire. Oui. Il a des cagettes. Je crois que lui, il utilise du polystyrène, mais c'est pas bien. Après, ça fait des années qu'il les a, donc à force. Mais non, par contre, cajots,
ça diffuse, c'est pas top.
Non, c'est pas top. Mais cagettes en bois recouvertes de bonnes couches de papier, carton au fond, plus votre préparation de culture. Ça peut le faire si vous avez. L'an dernier, j'ai fait comme ça, j'ai divisé des cagettes et puis j'ai fait des zones. Ça peut le faire.
Oui, moi je fais mes semis de tomates généralement comme ça dans des cagettes en bois. Ça marche très bien.
Voilà, Isa. Allez, Thibaut Calmos. Alors, nous pose une question qui n'est pas plus tout à fait. Enfin, c'est plutôt. Oui, on enregistre peut-être un peu tôt, je ne sais pas, tard. Bonjour, j'ai un tas de déchets organiques que j'entasse depuis maintenant 2 ans environ. Et en le remuant à la main, j'ai découvert plein de vers de terre. Je vais bientôt planter pois et fèves. Et oui, il est un peu tard pour planter les pois et fèves maintenant, Thibaut. J'aimerais utiliser un peu de ces déchets pour nourrir mes graines. Ma question est la suivante, est-ce que je vais détruire la vie si je prends un peu de ces déchets pour mes graines? Si je déplace des vers, vont-ils se faire à un autre endroit? Et je ne sais pas si leur travail est fini, c'est-à-dire que je n'aimerais pas interrompre leur travail de la terre. Et Thibaut nous envoie une belle photo avec des vers bien blancs, qu'on pourrait même dire que c'est peut-être des vers de mouche. Non. Merci, je suis Thibaut. Réponse de la part de nos spécialistes. Hélène.
Alors, il parle de déchets. On ne sait pas si c'est compost ou pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ces déchets. Mm-hmm. Mais ce qu'il peut faire, c'est quand même tester avec le test du cresson, qui lui permettra de voir si dans ces fameux déchets... Alors, déchets, moi, je n'aime pas ce mot. Sous-produit ou quelque chose qui n'a pas encore été valorisé, mais il n'y a pas de déchets. Hein. Donc, de faire un test en semant du cresson de terre, cresson alénois, et de voir si ça, comment sort le cresson, s'il est vigoureux, s'il est bien vert, etc. Et ça lui donnera une idée de ce qui va se passer après pour sa plante à lui, pour ses semis à lui. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que sur des pois, des haricots, des fèves, etc., qui ont une propriété de capter l'azote, on ne met pas de compost ou de déchets qui soient riches en azote. Donc s'il met quelque chose, il faut que ce soit vraiment bien composté, très mûr et du très vieux compost.
Quoi. Oui, ce serait même pas utile de mettre quoi que ce soit sur cette plantation-là.
Pour ces cultures-là, non seulement c'est pas utile, mais ça peut être toxique. Ça peut empêcher les graines, pas forcément de germer, mais d'installer de fonctionner correctement.
Et ça peut même favoriser l'apparition de pucerons qui vont venir comme indicateur de surplus d'azote en fait à cet endroit.
Alors, sinon, le mieux, ce serait qu'il fasse vraiment composter ça. Et puis, ces vers, ce n'est pas du tout sûr qu'ils travaillent la matière organique. C'est peut-être, oui, des vers de mouche ou autre chose. Donc, ce n'est pas grave. Et puis, si c'est mobile, un vers. Donc, s'il ne sent pas bien là où il ira ailleurs. Ça, ce n'est pas un problème, quoi.
Oui, la vie trouve son chemin, même si c'est la porte de sortie.
Oui, oui.
Le compost, effectivement, on ne va peut-être pas en reparler.
C'est ça qui est important. Quoi.
C'est essentiellement soit une fermentation, soit un travail de champignons. Ce n'est pas forcément un travail de vers de terre.
Mm-hmm. Les vers, ils sont utiles pour brasser, pour manger certaines matières organiques, etc. Mm-hmm. Mais là, ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'il va mettre dans sa terre. Donc ça, le mieux, c'est de le tester avec le cresson.
Mm-hmm. Ensuite, une question de... Oh, je déteste quand vous enlevez... toutes les voyelles de vos noms pour faire des pseudos. Donc, c'est... Donc, je pense que ça doit être peut-être Clémence Thévenet, qui voulait passer incognito, et qui nous pose cette question. « Bonjour, me voici l'heureuse propriétaire d'une maison dans la région lyonnaise. Je suis une fille de la ville qui veut apprendre et découvrir une culture réfléchie. Voilà les trois bouts de parcelle, Rikiki, c'est elle-même qui le dit, que j'ai. Deux le long de ma maison et un bout derrière. La terre est assez caillouteuse, voire à des endroits, il y a de la roche. Rien n'a jamais été planté dans la parcelle, donc j'ai des ronces et des orties. J'aurais besoin de vos conseils pour un bon démarrage. À vos claviers. Merci. » Puisque nous avons pris cette question sur les réseaux sociaux. Alors, Méina, puisque tu es prête à clavarder,
clavciner, alors, c'est pas mal.
Elle nous envoie des photos, donc des bandes de terre, un peu en pied de mur, un peu en bord de route, j'ai l'impression, quand même.
Oui, pas mal en bord de route. Et puis bon, c'est dommage parce qu'on ne connaît pas l'exposition. En fait, là, il fait gris sur la photo, donc on ne voit pas le soleil et on ne connaît pas l'heure. Ça serait quand même de connaître déjà l'exposition de ces bandes de terre pour pouvoir imaginer quelque chose. Dans un premier temps, moi, j'observerais déjà... Bon, on sait qu'il y a des orties et des ronces qui poussent, mais j'observerais justement l'ensoleillement, la température qu'il y fait. Et puis ensuite, adapter les cultures. Mais on peut imaginer que là où il y a deux endroits qui sont avec des murs, on pourrait très bien faire monter des plantes, que ce soit des tomates, que ce soit, pourquoi pas, des kiwis, enfin des plantes grimpantes. Et puis, il y a une autre parcelle qui est très... Pareil, alors ça a l'air assez encaissé. Bon, je pense que sur c'est plus facile, à mon avis, de cultiver dans cette espèce de cour intérieure que sur l'extérieur, où la proximité, il n'y a pas de coupure entre ce bord de petite pelouse et la route. Donc après, c'est en termes de pollution. Est-ce que c'est très fréquenté, pas fréquenté? On manque un peu d'éléments pour répondre précisément à la question.
Ce qui est bien, quand même, c'est qu'elle a des ronces et des orties. Parce que ça veut dire qu'il y a une terre qui a un potentiel. Et les ronces, après les ronces, la terre est meilleure qu'avant. Donc déjà, c'est de la chance. Même si c'est rikiki.
Et les orties amènent de l'azote.
En plus, voilà. Puis les orties, elles pourraient s'en servir aussi pour son jardin, faire des extraits.
Donc une petite phase d'observation pour ces terrains. Ce qu'il y a comme plantes qui poussent déjà, la fréquentation, l'orientation, tout ça. Pensez à cultiver, quand on a du rikiki, cultiver le volume au-dessus, sur les murs, en suspension, enfin là, ce serait plutôt en grimpant. Voilà, Strandfoodonaut, j'ai vraiment du mal avec ce pseudo, mais j'espère que tu as eu des réponses à tes questions. Alors, comme aujourd'hui nous avions peu de questions, nous avons aussi décidé, c'est Hélène qui nous a apporté des livres, non, elle me tend le livre comme si j'allais lire, pas question, mets donc tes lunettes très chères et parle-nous de ce livre qui a l'air d'être, oui en plus, c'est un problème, à partir d'un certain âge, le prix de la lunette augmente. Alors, c'est un livre
On n'entend pas les S en français.
C'est un livre qui quoi ? C'est un livre sur l'association de plantes ?
C'est un livre sur les associations de plantes qui a été fait par une Anglaise qui s'appelle Josie Jeffrey, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, et que je trouve qui est très bien fait parce qu'en fait, il propose des... Les pages sont coupées en trois parties et il y a des indications sur les maladies, ce que ça favorise, ce que ça empêche... Je ne sais plus exactement ce que c'est. Il y a beaucoup d'indications sur les plantes et qu'est-ce que ça va donner en les assemblant. Et on peut bouger, comment on peut appeler ça,
la
partie mobile, comme des cartes attachées. Voilà, on peut bouger celle d'en haut avec celle ou celle d'en bas, celle du milieu, etc. Il y a des arbres, il y a un peu tout. Il y a des plantes médicinales. Donc voilà. Donc il est très clair aussi au niveau des légendes.
Oui, je vois qu'il y a des petits pictogrammes pour vérifier
qui
complète quoi. Il a l'air d'être très commode.
Oui, puis je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a de la souplesse. Par exemple, si on veut savoir ce qu'on peut mettre avec les radis, on va regarder, on va tourner sur les fleurs, on va tourner jusque sur les petits fruits, etc. Il y a plein de diversité. Quoi.
Oui. Ça fait un peu un effet à la fois catalogue et en même temps qui a été prévu pour que les fiches interagissent les unes avec les autres et qu'on puisse avoir un regard synthétique.
Oui, et en plus, je trouve que ça a un côté un peu ludique, quoi. C'est pas comme si on se plonge dans un grand tableau et tout ça. Ouais. Donc voilà, ça dit quels insectes ça va attirer, les pollinisateurs, si ça repousse des parasites, si ça prévient les maladies. Ouais. Donc on jongle avec tout ça, en fait.
Comment il s'appelle ce livre ?
Plante cherche plante.
Plante cherche plante. Et c'est quelle
Josie
édition ?
Josie Jeffrey, édition Rustica.
L'édition Rustica.
Et le guide, sous-titre, le guide malin des bons mariages au jardin.
Oh, c'est bien. C'est un prix, cette chose ? Mais c'est pas indiqué. Oh, une quinzaine d'euros. Bah, dis donc. Bon, on va pas faire trop de publicité, mais en tout cas...
Mais voilà, il est agréable à manier pour un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder.
Oui, et puis la forme souvent est très malaisée. On trouve souvent des tableaux entiers de plantes où il faut qu'on arrive à se retrouver.
Un peu indigeste,
et là, je pense que c'est un truc très utile à avoir.
Oui, et puis ça oblige à être acteur dans notre recherche. On n'est pas juste en train de lire, on va bouger aussi en même temps.
Tu avais une autre référence
pour nous. Et l'autre, c'était aussi sur les plantes compagne, le guide des cultures associées de terre vivante, parce que il est bien fait, illustré. Enfin...
D'accord. Il est un peu plus conventionnel dans sa forme. C'est
oui.
un livre.
Oui, c'est un livre.
Au fil de l'eau.
Mais qui est bien fait aussi.
D'accord. Pourquoi tu penses qu'il est bien fait ?
Parce qu'il est agréable à regarder déjà.
Oui.
Qu'il y a un index qui est complet, et puis on peut chercher par ordre alphabétique aussi, par maladie, par plante, pas par maladie ou par insecte, par plante, voilà. Et il y a beaucoup d'exemples différents de qu'est-ce qu'on peut associer avec quoi. Voilà, répertoire des plantes compagnes.
Une sélection de livres autour de...
sur les associations
des associations de plantes,
qu'on a déjà vu ensemble.
Qui est plus, probablement un petit peu plus complet, avec des fiches un peu plus détaillées, mais qui, dans sa forme, est un peu plus ordinaire. Et un autre qui est plus...
plus classique.
Une forme attrayante et ludique, mais qui sera peut-être un petit peu moins complet. Donc, deux livres qui peuvent se compléter.
Et donc, celui des plantes compagne au potager bio, il est chez Terre Vivante, et il est à 27 euros, celui-là.
Voilà. Nos deux conseils lecture pour aujourd'hui.
Voilà.
Allez, on s'écoute Soul de l'album Vous êtes ici. À tout de suite.
Les pieds dans la mouise, une toute petite brise sur ma chevelure étoilée. Regard interdit d'un moineau qui chie sur moi. En été, je suis un saule qui pleure en attendant mon heure. Si le roseau pense, moi mon cœur flanche. regarde comme c'est joli. Un arbre triste la nuit, qui quand tout le monde dort, s'inquiète encore. Qui quand tout le monde dort, s'inquiète encore. Je suis discret, moi, je suis discret, moi. Je suis comme ça. J'avais bien des choses à leur dire, mais le silence est roi, le roi des bois, le roi de tout. De toute façon, je suis qu'un arbre et je m'en fous. Je suis un saule qui pleure en attendant mon heure. Si le roseau pense, moi mon cœur flanche. Regarde comme c'est joli, un arbre triste la nuit, qui quand tout le monde dort, s'inquiète encore.
FM 97.1, c'était Saul, comme l'arbre, de son album Vous êtes ici. Aujourd'hui, le thème de Couleur Terre, c'est l'ergonomie, les outils qu'on choisit, comment ne pas se faire du mal en faisant du jardin. Peut-être que le premier thème dont on peut parler, parce que moi j'aime bien aller du général au particulier, c'est peut-être cette ergonomie-là, elle se réfléchit au moment de la conception du jardin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, que le design puisse avoir un impact sur la manière dont on va être au jardin?
Qu'est-ce qu'on en pense?
Oui, ça vous paraît crédible? Ça... Est-ce qu'il y a des pratiques plus judicieuses que d'autres, justement, en termes de plan de jardin, pour éviter de se faire du mal?
Se faire du mal, c'est un grand mot, mais déjà d'être rationnel, déjà d'avoir la largeur des bandes, parce que quelquefois, on voit dans les jardins, les bandes pour circuler entre les allées, les allées sont pas assez grandes pour passer une brouette, par exemple, ou les tournants, il va falloir te plier en quatre pour pousser la brouette, des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc oui, c'est vrai que ça a un impact.
Puis si on a des gros problèmes de dos, on va plutôt imaginer un jardin un peu en hauteur, pourquoi pas, dans les aménagements.
Oui. Planche surélevée.
Planche surélevée, but, bac en hauteur. Donc effectivement, ça se réfléchit en amont du jardin.
Oui, en fonction de la pente aussi, etc. Quoi.
Oui, c'est quelque chose dont on ne pense pas forcément avec le jardin en rectangle ou ce genre de choses. J'ai eu le cas d'un jardin qui s'était installé et la plupart des gens en fait voulaient faire un jardin en ras du pied et puis c'était handicapé, donc ça se fait pas, quoi. C'est un peu problématique. Non, mais c'est, du coup faut adapter aussi de temps en temps, il faut aussi adapter le lieu aux gens pour arriver à ça.
Il y a des jardins, pendant moi je suis allée au jardin à Fontaine, ils ont fait carrément des grands bacs surélevés pour les handicapés parce que c'est un jardin collectif dans lequel il y a les handicapés, donc ils l'ont pris tout de suite en compte, quoi. Ça en général ça se fait, quoi. Je veux dire, c'est un peu pour moi c'est un peu différent ça de l'ergonomie, c'est-à-dire de comment on va tenir les outils qu'on prend tous les jours, comment on va porter ou comment on va se mettre pour porter quelque chose, pour pousser, enfin tout ça, quoi. C'est un petit peu.
Ouais. Pour moi, c'est le premier pas. Enfin, pour moi, je pense que c'est le premier pas d'une installation réussie, parce qu'effectivement, on évite de se couper de gens qui ne peuvent pas accéder. C'est une chose qui est à penser. En amont.
Oui, puis c'est vrai que on parlait de la taille des allées, la dimension des allées, mais c'est vrai aussi pour les plantes de culture, suivant les personnes, ils vont préférer être sur du 1m20. Il y a des gens qui vont vouloir être sur du plus petit, parce que justement en fonction des outils utilisés et puis de la taille de la personne, ça sera mieux de faire des bandes de culture plus étroites. Et ça, c'est toujours pour le confort de la personne.
Bon, après, sur le design du jardin, on a suffisamment aborder la question dans cette émission, parlons des outils, puisque c'est le thème, c'est le cœur de notre thème aujourd'hui. Des outils au jardin, y en a plein. En fait, on peut en trouver plein. C'est quoi, par exemple, basiquement, les outils indispensables à avoir au jardin pour vous?
Moi, c'est une question que je pose souvent dans les formations que je donne, justement, parce que je trouve ça très intéressant d'avoir la vision des personnes, parce que c'est finalement très, très personnel. En plus, si on parle des outils, on va parler des noms aussi des outils qui sont pas... Pour le même outil, il y a trois mots, quatre mots, voilà, et puis les gens n'imaginent pas que c'est finalement le même outil. Tout dépend comment on travaille ou on ne travaille pas le sol, justement. Moi, j'ai tendance aujourd'hui à avoir moins d'outils utilisé au quotidien qu'en démarrage de jardin il y a 25 ans. Je dirais, moi, trois outils me suffisent.
Wow.
Quatre.
Ouais, moi, je dirais aussi, même aujourd'hui, maintenant, quand j'ai démarré ce jardin-là, donc il y a 7-8 ans, et ben, j'avais besoin de la grelinette, etc. Aujourd'hui, la grelinette, elle me sert juste à prêter dans des jardins, tout ça, et j'utilise, moi, personnellement, pareil, le râteau, le piochon.
Voilà, ce que moi j'appelle la serfouette, parce que c'est le même. C'est-à-dire celui qui est quand même en deux parties, avec et puis une partie qui fait soit, voilà, soit langue, soit...
Alors, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une houe. Il va falloir être... Il va falloir donner des détails.
Alors,
Hélène nous a amené un document qui permet de détailler. Alors, nous allons montrer aux auditeurs l'image de ce document, mais... Le piochon, c'est le piochon.
Oui, alors voilà, il y a deux trucs. Piochon, ça, c'est le piochon.
Le piochon.
Serfouette. Moi, c'est pas ce outil.
Celui-là, où il a deux dents, comme ça.
De ce côté, voilà.
Alors, nous avons un manche. D'un côté, nous avons une partie plate qui permet de faire, de biner.
Une partie plate et...
Et de l'autre côté, nous avons une partie pointue.
Ah, d'accord.
Donc ça, c'est... La partie plate et rectangulaire qui permet de biner. Et la partie plate et triangulaire... Moi, c'est ça que j'appellerais un piochon.
D'accord.
Et qui peut servir typiquement à biner.
Et la partie triangulaire, parfois, est organisée en deux crocs.
Voilà. Oui, ça, c'est ça, la serfouette.
En fait, c'est le même nom pour les deux outils, sauf qu'il y a soit des dents, soit ce qu'on appelle la langue, la partie pointue triangulaire, et on appelle ça la langue.
Et moi, personnellement, j'aime bien les dents, parce que c'est ça que j'utilise le plus. Parce que c'est léger comme outil, donc on se fait pas mal au dos, c'est facile à prendre partout, et puis on fait vraiment tout. Après, bon, quelquefois, c'est pas très solide si on a quelque chose à... Si on a une racine, par exemple, qu'on veut enlever, quelquefois, on peut casser l'outil, mais enfin, bon, quand même, faut y aller quand même.
D'accord. Donc, la serfouette, en premier lieu, outil... quelle version ? La version... courte à tenir
avec un manche normal,
avec un manche normal,
à hauteur.
C'est pas un très long manche quand
même.
C'est
1m20.
Voilà, c'est 1m20. Et tu parlais du râteau. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le râteau, c'est que c'est un outil qui permet de ratisser, qui permet de plomber, mais aussi comme il a un long manche,
ça veut dire tasser les graines.
Tasser les graines une fois qu'elles sont dans le sol, dans le sillon.
Tu peux tracer les lignes.
Voilà, avec les manches, on peut tracer les lignes, et c'est bien d'avoir, en tout cas, au moins un outil qui a un long manche. Ça fait deux outils.
Oui.
Et le troisième, alors pour toi?
Voilà, après, moi j'en ai plein des outils dans la cabane, mais je les utilise pas. Quoi.
Ah!
La grelinette, c'est pour vraiment si je veux agrandir le jardin, quoi, pour refaire la terre. Quoi.
Et c'est quoi ton troisième outil, toi, Méina?
Moi, ça, c'est un croc, en fait, qui est venu en remplacement de la grelinette. Effectivement, le terrain maintenant étant se travaillant tout seul, j'aime bien éventuellement passer un coup de croc. Donc le croc, c'est un outil dont le fer est en angle. Alors en angle comment par rapport au manche?
C'est une fourche courbée.
C'est une fourche courbée à quatre dents. Voilà, et des dents qui sont pas très très longues, et donc qui permet simplement de décompacter le sol sur 10 cm.
Oui, c'est vrai que moi je m'en sers aussi, celui-là. Et puis, il permet d'aérer, de réveiller un peu la...
Pourquoi c'est important d'avoir un outil à long manche? Parce que tu disais, c'est bien pratique d'en avoir un. Moi, je m'en sers pour ramasser les fruits de temps en temps, parce que ça me permet de plier des branches avec le râteau, par exemple.
Oui.
Mais toi, pourquoi?
Moi, pour tracer les sillons semis, sans être courbé, en fait, en restant le dos droit.
Ça se défend bien.
Et puis après, il y a quand même le sécateur qui est en service aussi.
Il y a d'autres outils. L'arrosoir,
Voilà.
Bah, le sécateur, oui, c'est quand même
c'est un outil indispensable.
Qui est quand même assez fréquent. On le choisit comment, son sécateur? Parce que là, on a abordé la question des...
Alors, ça dépend si on sort du sol ou pas, quoi. Ou si on reste dans les outils du sol, peut-être, non?
Bah, j'en sais rien. Moi, je propose qu'on parle des outils de la cultivation. Je vais peut-être poser la question plus généralement. Comment on choisit ces outils?
Alors, en fonction quand même justement de si on a des soucis d'eau ou pas. Moi, je sais que bon, pour jardiner, accompagner les jardins collectifs, où les outils sont mis en collectif, bah, sur un des sites, il y a une personne qui a acheté ses propres outils, qui a des gros problèmes de dos et qui avait besoin justement d'outils avec des très longs manches. Mmh. Et du coup, voilà, elle a mis en circulation pour elle et pour ceux qui le souhaitaient, des outils qui, a priori, n'auraient pas été achetés comme ça. D'accord. Donc, c'est déjà adapté effectivement des outils à notre taille, à notre hauteur, et aussi à notre force musculaire. Et, alors là, ça va faire rire, mais à la largeur de notre bassin, je pense à la grelinette. Non, je pense à la grelinette, effectivement. L'important, c'est qu'on puisse passer les manches, voilà, les manches puissent passer autour des hanches. Et si on a de la force, ben, on en prend une à 5 dents. Si on a moins de force, ou que ça nous fait peur, ben, on en prend une à 3 dents. Voilà, donc c'est quand même un critère important.
Oui. Après, on va
la mesure physique de la personne.
La mesure et notre capacité et tout ça. Et puis après, il y a aussi comment on veut travailler ou pas travailler le jardin, quoi. Parce que déjà, dans une approche agroécologique ou même en permaculture, de toute façon, on va travailler le moins possible. Et puis toujours avec des outils à dents. Donc déjà, on va prendre que des outils à dents. Après, qu'ils soient crochus, qu'ils soient avec les dents, soit avec XY, mais c'est vrai, on va avoir que des outils comme ça. Enfin, on va utiliser que des outils à dents.
Tu n'utilises pas une binette, par exemple?
Alors moi j'ai plein d'outils parce que, un peu comme Mélina, j'ai démarré le jardin il y a longtemps et puis je ne faisais pas de la même façon. Mais non, je n'utilise pas. Même la triandine, j'aimais beaucoup avant. Donc c'est la triandine, c'est la fourche bêche ou elle a d'autres noms aussi. Et on peut s'en servir un peu comme d'une grelinette, c'est-à-dire on peut l'enfoncer puis juste bouger un peu comme ça le manche et ça bouge le sol, ça permet de déraciner un peu s'il y a des herbes. Parce que c'est ça aussi, on choisit les outils en fonction de ce qu'on a à faire. Si on récupère une terre qui est envahie de chiens dents, par exemple, je ne sais pas quoi, on va être obligé quand même d'avoir un outil qui va pénétrer un peu, qui va permettre de déstabiliser les racines pour les enlever, etc. quoi. Donc ça dépend de ça aussi.
On choisit aussi en fonction de son budget?
Bah, non, parce que si t'as besoin d'un outil, tu en as besoin. Quitte à l'emprunter, tu n'es pas obligé de l'acheter. Mais tu peux aller l'emprunter, l'échanger avec quelqu'un, ou
ça
tu vas acheter un outil par an, enfin j'en sais rien, mais si tu as besoin d'un outil, tu en as besoin.
Ça peut peut-être se troquer aussi. Enfin, je veux dire, si tu fais un vide-grenier de ta cabane de jardin parce que tu ne sers de plus rien, peut-être que ça peut
se troquer. Oui, peut-être que ça. Oui, mais j'ai pas envie de donner aux gens les outils que je sais qu'ils ne sont pas bons pour les vers de terre ou autre chose.
Ah ouais, d'accord. Donc tu préfères les garder et les détruire.
Je sais pas ce que j'en fais. Après, moi, ce que je regarde, c'est la qualité de l'outil aussi. Hein. Parce que si tu prends
un outil
chinois,
de bonne qualité,
la qualité du métal.
D'accord.
Tu vois, par exemple, si tu prends une grelinette qui s'appelle grelinette parce qu'elle est faite par les établissements Grelin, normalement, c'est pas la même qualité. Déjà, c'est pas la même forme de dent. Mm-hmm. C'est une dent en point d'interrogation. Alors qu'il y en a, elles ont les dents toutes droites. Ben, tu travailles pas du tout de la même façon. Hein. Tu vas te faire bien plus mal au dos. Mm-hmm. Ça va pas rentrer pareil. Mm-hmm. Et ben, il y a la qualité du métal et savoir si la dent peut se défaire, se changer, par exemple. Mm-hmm. Si tu peux pas changer la dent, ben, quand tu as une dent foutue, ben, c'est fichu. Il y a ça, la qualité de l'acier, donc déjà regarder l'origine.
Si l'acier est forgé, ça sera beaucoup plus résistant.
Qu'il soit résistant, de bonne qualité, que ça casse pas. Quoi.
Que ça forge pas.
Après, que ça soit pas fait en Chine, sauf si tu as envie de soutenir l'industrie chinoise. Mais bon.
Et la qualité des manches.
C'est pas mon cas. Après, alors ça, j'ai un studio d'outils, mais après.
Ouais, la qualité des manches, on en parlera juste après, peut-être avec l'entretien et le fait que ça puisse. Éventuellement se changer.
Oui, moi je rajouterais un outil quand même que j'utilise à la fois parce que je fais des profils de sol, mais aussi je trouve que c'est pratique pour les plantations d'arbustes ou de petites arbres, c'est le louchet ou une bêche carrée, mais assez haute, elle n'est pas large, mais elle est plutôt étroite et assez haute. Donc ça c'est un outil, voilà, quand on fait de la plantation d'arbustes, d'arbres, etc.
C'est pas une pelle, quoi, c'est...
Ah ben ça fait pas le même travail.
Comme une pelle droite, quoi.
Oui, c'est comme une pelle, pas les pelles arrondies,
oui,
mais les pelles coupantes. Elle est coupante.
Oui, pour casser les légumes. Quand on fait du compost pour couper les
épluchures. Oui, par exemple, tu peux trancher avec. Très coupant.
Oui. Ah oui, pardon.
Moi, je sais que j'utilise souvent le plantoir, donc une petite pelle à main, mais parce que je suis souvent à quatre pattes, j'aime bien mon petit jardin de près, j'ai plus besoin de voir la terre de près.
Après, il y a un autre outil qui est pas de... Ah, si elle est là, c'est la fourche aussi. Mmh. Moi, j'en ai plein de fourches, mmh. mais aussi parce que bah, si on met de la paille, des couvertures et tout ça, on a besoin de charrier des brasser végétaux, le compost, brasser le compost et tout ça.
Puis la brouette.
Ah, la brouette. Ça, la brouette, je ne sais pas si on dit que c'est un outil, mais c'est... Ouais.
C'est assez important. Mmh. On s'arrête là pour cette première partie. On s'écoute un petit peu de musique produite peut-être avec amour par Saul.
Sûrement. Donc,
sûrement, parce que c'est toi qui as choisi le disque, Titane.
Oui, c'est des petits protégés.
À tout de suite.
Les jours se fanent, on se tracasse, le bout de l'âme, les rires s'effacent, ainsi s'achève, lentement sans laisser de traces, nos jolis rêves. Je préfère fermer les yeux, me dire que demain sera mieux en silence. Je m'endors sans conscience ni
FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et nous venons d'écouter Saul. Aujourd'hui, on parle outils, les amis du jardinier les plus métallisés. Oui, ça vient comme ça, c'est ainsi. Nous avons un peu parlé du piochon, mais aussi serre-fouette, du croc, de la fourche bêche. Nous avons parlé un petit peu de la grelinette, nous avons parlé un petit peu du plantoir, hein, qu'est-ce qui nous reste ? La brouette, on en a parlé, alors la brouette, on pourra en reparler un peu, une roue, deux roues, ce qui compte c'est qu'elle soit peut-être pas trop lourde aussi, maniable.
Oui, ce qui compte c'est la façon de la prendre aussi, de la
soulever. Parce
que très souvent quand elle est chargée, on la soulève de travers, quoi, et du coup...
Est-ce qu'on passe un petit moment tout à l'heure à parler spécialement des manières d'utiliser nos outils ? On fait le tour encore de ceux qui sont fréquents.
Oui, parce qu'on a vu la binette, donc on n'a pas...
La binette, c'est une palette carrée au bout d'un manche qui permet de gratouiller les premiers centimètres de la terre et entre autres de casser la croûte de battance. Quand il y a une croûte de battance, ce que nous, on espère ne pas avoir, ou encore de déraciner les petites plantes qui nous sont malvenues.
Après, moi, j'utilise plus ça. Alors, je sais pas comment
ça, c'est une griffe.
C'est la griffe.
C'est une griffe,
c'est plusieurs dents qui sont recourbées.
Ça, c'est bien aussi pour casser la croûte.
L'avantage de la griffe, c'est que normalement, ça ne découpe pas trop les vers de terre, là où la binette a tendance un peu à être un peu coupante, de ce point de vue-là.
Et c'est aussi un des outils qui a un long manche.
Et la griffe a souvent un plus long manche.
Que la binette,
rien n'empêche de mettre des longs manches sur des binettes si on a envie. Ouais, je l'ai fait. Le truc, c'est qu'effectivement, vu que c'est pas la même... souvent, la longueur du manche est liée à l'utilisation qu'on fait de l'outil. Ouais. Quand on a un long manche, très souvent, c'est des outils qu'on va tirer. Alors que si on les utilise pour taper, on risque de casser le manche. Mais on peut aussi envisager d'avoir des longs manches sur des outils qui servent à couper, en sachant ça, pour éviter de casser le manche.
Après, on n'a pas parlé tout à l'heure des outils qui vont pas servir tout le temps, mais si par exemple on fait de la culture sur butte, on va avoir besoin d'outils de terrassement, quoi.
Donc, une pelleteuse, toujours dans votre jardin. Ça veut dire une grosse cabane à outils.
Voilà, mais une pioche, enfin où les gens ils appellent ça un pic, ça dépend, en fait, déjà une pioche, une pelle, des choses comme ça pour faire le décaissement, etc. Quoi, ça.
Pour aller creuser un peu plus.
Pour aller un peu plus en profondeur.
Je sais pas pourquoi j'ai envie de revenir sur le sécateur. Je n'ai absolument, je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que l'an dernier j'en ai cassé 4. Mais essentiellement parce que en fait je les ai amenés en stage avec moi et que mes stagiaires ont cassé mes sécateurs parce que souvent ils ont pris mes sécateurs pour des coupes branches, mais genre des coupes branches énormes. Les sécateurs en ce moment on en trouve deux styles. Il y a le style, j'allais dire le vieux style, mais qui à mon avis est le mieux, celui où il y a une lame coupante et puis une enclume, donc la côté non coupante qui est celui qu'on conserve, qui permet en fait de faire une entaille de assez limitée sur la branche quand on fait sa taille de pommier, parce que voilà, c'est être utile. Je pense à ça parce que j'ai un pommier. Et ce qu'on voit apparaître pas mal sur le marché en ce moment, ça fait même un bout de temps, c'est ceux à démultiplication de force, où en fait il y a un cliquet, et le cliquet a pour effet en fait de faciliter, la lame reste ensuite en place et ça facilite la découpe parce que ça démultiplie la force. Le problème qu'il y a avec ces choses-là, c'est qu'il y a vraiment un écrasement de la branche en entier sur l'enclume qu'il y a derrière. Alors on m'avait... Le gars qui a essayé de m'en vendre un l'autre jour m'a dit « Mais maintenant, avec les lames qui coupent très très bien, il n'y a plus cet écrasement de branche. » Et en fait, en pratique, si, il y a l'écrasement de branche quand je fais la taille de mon pommier. Il est abîmé sur la partie qui doit cicatriser par l'enclume de l'outil. Mais certes, c'est plus facile de couper la branche, mais ça se fait au détriment de la cicatrisation.
Mais pour un pommier et des arbres... Pardon.
Et j'allais dire de plus, parce que j'ai expérimenté cela aussi, que ce soit avec des manches courtes ou de longues manches, je ne peux pas l'utiliser à longue durée. Ça tout à coup, on passe de la première à la troisième, et puis ça ne... Donc j'ai abandonné. Oui. J'ai essayé 2-3 fois en me disant, j'ai mal acheté, c'est un mauvais outil, je vais en reprendre un autre. Et à chaque fois, ces clics-là ne passent plus.
Ça saute, effectivement.
Donc je reviens aux anciens.
Plus simple, un petit peu plus dur à la poigne, mais qui sera de service de longues années si effectivement les manches sont bons. Parce que l'an dernier, il y a quelqu'un qui m'a cassé un de ces manches-là avec une poigne de fer.
Pour aller avec des grands manches. Parce que dans les arbres, je prends avec des grands manches. Et puis donc,
c'était l'exemple typique d'une utilisation inadaptée. C'est-à-dire qu'un sécateur... un petit sécateur à main est fait pour tailler de la branche en verre verte.
Ou des plantes. Moi, je m'en sers pour couper
des petites choses.
Diamètres.
Il est important de respecter l'usage des outils, parce que sinon, c'est comme ça qu'on les abîme aussi. Vous avez plein de gens qui me disent mais ma grelinette, le problème, c'est que chaque fois que je veux faire ça, je tords les dents. Mais oui, mais sert pas à faire, c'est pas une bêche, quoi. C'est pas, comment t'appelles ça, un louchet, c'est pas un truc qui permet à
soulever
faire
les cailloux et tout ça.
Ça sert pas à soulever, un caillou. Et moi, quelqu'un m'a tordu ma grenade une fois en disant comme ça j'ai enlevé le caillou. Je dis oui, mais comme ça moi j'ai ma dent qui est tordue. Pourtant elle était forgée, hein, donc il y allait fort.
Il y a ça, prendre l'outil qui correspond à ce qu'on veut faire et après l'entretenir. Effectivement, les sécateurs, ça peut s'aiguiser quand c'est du bon acier.
Exactement, il faut que
si tu prends des sécateurs qui sont chinois, pour pas dire, mais en tout cas tu peux pas aiguisé,
forcément chinois, parfois foutus, c'est des lames qui sont recouvertes de téflon, ça se trouve de plus en plus souvent pour éviter, parce qu'ils disent ça se nettoie pas, etc. Un sécateur, ça se nettoie. En fait, la plupart des outils, ça se nettoie à la fin. On parle de l'entretien maintenant, peut-être. La plupart plupart des outils se nettoient à la fin. Un sécateur, ne serait-ce que par hygiène pour les plantes suivantes, en fait, un sécateur, si vous avez une plante qui a un champignon, vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas transmettre votre champignon à la plante d'à côté, vous ne voulez pas transmettre ça à votre autre arbre fruitier, donc vous le passez à l'alcool de temps en temps, vous le séchez, et puis voilà, basta. Et pour les crocs, etc., c'est la même chose aussi.
Oui, puis après, il y a aiguiser aussi les outils. Oui. Donc avoir de quoi, justement, dans les outils nécessaires, bah, une lime, un métal pour...
Une pierre.
Ou une pierre pour la Oui, après, ça va moins bien qu'une lime, quoi. Pour vraiment bien aiguiser.
Et puis moi, tu disais la fin, en fait, c'est la fin de la saison, j'imagine. Décembre, janvier, c'est une bonne période, effectivement. Moi, je nettoie aussi bien les fers que les bois, avec de l'huile de lin, tous les ans. Et j'ai une grelinette qui a 25 ans, on dirait qu'elle en a 3, quoi. Elle est en bon état.
Donc, quand je parle de la fin, c'est de mon sécateur, parce qu'en fait, quand je taille un arbre, mais effectivement, quand ça commence à être l'hiver, moi j'utilise un mélange huile de lin, huile de térébenthine, et les manches se conservent manches très bien, et ils sont très jolis, ils sentent bon, c'est jaune, c'est beau. Tout simplement parce que mes outils, moi, je les ai récupérés soit de mon grand-père, soit dans des brocantes, soit de temps en temps. Du coup, c'était des manches qui n'étaient pas vernies. Et puis, ça va très bien, ça va très, très bien comme ça. Mais par contre, à faire au moins une fois par an.
Oui. Mais c'est vrai que de toute façon, je pense que les outils, moi, je dis souvent, c'est le prolongement des mains et des bras des jardiniers. Il y a un attachement à nos outils qui est réel.
Oui, il y a ceux qu'on aime aussi.
Il y a ceux qui ont une histoire.
Et du coup, tiens, en parlant de manches, qu'est-ce que vous pensez de ces outils-là? Ça se trouve souvent sur les foires où les manches sont interchangeables. Vous savez, où on a juste l'outil métallique au bout, avec un système de cliquets, je ne sais pas, parce que ça, toutes les foires bio, écolo, même maintenant dans la plupart des grands magasins de jardinage, il y a ce genre de système où tu as un manche, et puis vous en pensez quoi?
J'ai jamais testé.
Moi, je ne m'en sers pas, j'ai fait acheter par des gens, mais j'ai pas suivi pour savoir. Peut-être ça peut être intelligent, effectivement, ou même ne serait-ce que pour une histoire de place. Si t'as pas beaucoup de place pour stocker plein d'outils, parce que ranger les outils, on n'en parle pas, mais c'est aussi par rapport à l'entretien, c'est important. Et puis il y a des systèmes qui sont intelligents, des systèmes qui faut trouver un moyen pour les ranger intelligemment, quoi. Donc ça, c'est pas forcément facile. Et si t'as pas de place, ça peut être bien d'avoir ça.
Ouais. Et en même temps, parfois, tu as un outil sur lequel est branché le manche, et puis tu as besoin de l'autre, il faut que tu débranches.
Tu vas avoir deux manches, quoi, j'imagine.
Oui, c'est ça, en fait. Du coup, tu as plusieurs manches. C'est un peu comme les poils où tu changes le manche, etc. Mais finalement, tu décroches jamais le truc parce que.
Mais moi, j'ai pas ça en cuisine non plus.
Moi non plus.
Mais j'imagine que ça peut être bien pour des gens qui ont peu de place.
Ouais. Non, mais la question du rangement, c'est une question qui est, à mon avis, assez cruciale c'est une des choses. J'ai le souvenir du tas d'outils. Maman, si tu écoutes ça, je suis désolé, je balance. Mais oui, pendant longtemps, on a eu un tas d'outils dans un coin. Alors, elle vous dirait, mais non, maintenant, c'est rangé. C'est vrai. Mais avoir un truc où on peut accéder facilement à un outil, que ce soit pas rangé au-dessus d'un toit, et quand on a besoin, parce que très souvent au jardin, c'est comme dit, le meilleur engrais, c'est l'ombre du jardinier, c'est qu'en fait, de temps en temps, il y a juste besoin d'un petit coup de serfouette ou d'un petit coup de râteau. Il n'y a pas forcément besoin, s'il faut aller chercher l'outil au fin fond de l'autre bout du jardin, l'emplacement de la cabane à jardin est important.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, j'y pensais quand tu parlais de l'aménagement du jardin et tout ça, de mettre la cabane à jardin, des outils, quoi, là où on se sert des outils, ou en tout cas mettre les endroits qu'on n'a pas besoin plus loin.
Pour les outils, j'ai un fût assez haut, et donc on peut mettre tous les manches à l'intérieur, et puis c'est cerclé autour de fer. Avec des encoches et dans lesquelles je mets le sécateur.
Mon beau-père, lui, avait un mur comme ça où c'était. Enfin, lui, c'est un grand travailleur et vraiment, chaque outil avait sa place. Bon, ça tenait un peu de place, mais finalement, c'était relativement plat. Parce que ça prenait de la place, mais sur un mur.
Ouais, mais moi, j'ai vu des systèmes au Grand Parc de Miribel, là où j'allais bosser au jardin. Hein, mais ils achètent ça dans des endroits un peu spécialisés, mais tu les rangeais en rond, en fait. Tu pouvais les accrocher un peu comme... C'était des élastiques, quoi. Et tu les accrochais, et du coup, c'est toujours rangé. Enfin, à condition de les mettre dessus, bien sûr. C'est toujours rangé. Non, moi, je mets un système avec une corde, un nœud autour du manche, et puis j'accroche la ficelle. Puis voilà. sur un clou, enfin,
avec des crochets, des choses comme
ça. Une vis, et puis voilà.
Je fais ça avec mes balais.
Chacun son truc. Ouais, on pourrait prendre des systèmes, tu sais, comme ça pour
suspendre de cette manière-là.
Alors moi, dans les outils, je rajouterais bien quand même quelque chose que j'utilise pas mal maintenant en permaculture, c'est une bâche. Pour les préparations de sol, voilà, en hiver ou
plastique, jute.
Moi, j'utilise les couvertures de toit là, les comment
ça s'appelle,
c'est des bâches pour les toits,
qui se dégradent pas trop.
Mais voilà, non, c'est en plastique.
Ça se dégrade au bout de quelques années, oui, ça se dégrade, mais
d'accord.
Sinon, bâche plastique pour couverture de sol.
Ouais,
et puis on n'a pas parlé non plus de ce qui est des supports de culture du coup, mais ce qu'on les met dans les outils, les voiles de forçage, les machins,
les arceaux,
les petits tunnels.
Oui, bah oui, voilà. Ça fait partie.
Oui, parce que c'est réutilisable.
Je sens qu'on risque de faire une autre émission à ce sujet-là. Mais non, parce que là, en fait, c'est déjà la fin de cette partie-là. Nous allons écouter de la musique. Et on se retrouve juste après.
Et le petit coussin pour les genoux, c'est bon?
Ah bah oui, on en parle en troisième partie. Ça.
En troisième partie, le petit coussin. Ok.
Allez, c'est parti pour Soul.
T'es qu'un con qui s'ignore. J'ai raison et t'as tort. Je suis ton patron, sans moi plus de pognon. Toi et tous tes copains, vous refaites ma toiture. Vous entretenez mon jardin et vous lavez ma voiture. Puis tu rentreras chez toi voir ta femme et tes gosses. Avant le repas, vous bénirez le boss. Puis tu rentreras chez toi voir ta femme et tes gosses. Avant le repas, vous bénirez le boss. Le boss, pour qui tu bosses? 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 Le boss, pour qui tu bosses?
FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et nous venons d'écouter Soul, comme les arbres. Sur cette partie d'émission qui était consacrée aux outils à main, nous allons aborder la question de l'ergonomie et surtout de comment utiliser nos outils. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'il faut qu'on parle outil par outil, Hélène, ou est-ce qu'on... Est-ce que tu as des principes généraux sur comment qu'on fait pour éviter de se faire mal?
Comment qu'on fait?
Bah oui, il y a
oui, il y a des principes généraux, c'est de ne pas faire travailler son dos, mais plutôt ses jambes.
D'accord.
Donc déjà, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a quand même le réflexe de se baisser en baissant le dos, de plier les jambes, etc. Déjà, si on arrivait à garder le dos droit tout le temps, que ce soit en levant la brouette ou en prenant la grelinette, n'importe quel outil, de garder toujours le dos droit... ce serait bien de respirer, même si on jardine, c'est pas mal aussi.
Ah oui, parce qu'il y a des gens qui...
Que ça arrête de respirer, oui, en tout cas.
Oui, oui, c'est vrai. Oui,
c'est vrai. L'effort, en faisant l'effort, en fait.
Voilà, on bloque. Voilà, on bloque. Il y en a qui hurlent, Marc, c'est mieux. Moi, c'est
crié. Au moins, ça sort.
Bah, déjà, dans la vie courante, on a tendance à oublier de respirer correctement. Alors, quand on force, encore plus. Hein. Je dirais, il y a déjà ça. Et puis, d'être plus dans la souplesse, si on peut, que dans forcer. Et puis, surtout, travailler le moins possible.
Mais oui, on est bête. Quoi.
Non, mais c'est, oui, vrai. Mais c'est vrai. On est quand même dans une culture où on est obligé d'avoir mal au dos. Les gens, ils arrivent, ils sont crevés chez eux le soir. J'ai mal au dos, je trouve travailler, apporte la soupe et tout. Enfin bon, ils se rendent compte, c'est un peu stéréotypé, mais c'est un peu ça. Quoi. Quand on a bien bavé, on est content. Quoi. Alors qu'en fait, c'est pas une obligation. Quoi. Donc nous, dans tous les outils dont on a parlé, les outils à dents, ils sont déjà beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables. Ça fatigue beaucoup moins le dos qu'une bêche ou les outils où on va pousser fort, retourner, enfin voilà, il n'y aura pas tous ces gros, beaucoup moins de gros travaux. Même si on fait des buts, on va les faire une fois, puis c'est tout. On ne va pas faire ça.
Moi, une des règles générales que je mettrais, c'est aussi entretenir, c'est tout bête, mais aussi entretenir son physique, parce que des fois, les gens, ils font aucune activité de la semaine, ils sont ultra sédentaires, et puis 2 heures par semaine, ils vont forcer sur leur dos, comme si en fait, c'était des sportifs de haut niveau. Je dis pas qu'il faut vous prendre un abonnement à la salle de muscu, mais un petit quart d'heure de gainage de temps en temps, ça c'est un entretien. N'importe quel ostéo ou chiropracteur vous dira que c'est utile de juste d'avoir un peu de sport, c'est beaucoup mieux que rien du tout, et ça entretient le fond musculaire. Et ne pas aller en force, enfin ne pas aller systématiquement en force et aller progressivement dans le geste, quel que soit le geste, c'est aussi une garantie de sentir quand ça va faire mal. Et cette sensation-là, on la développe aussi par les gymnastiques douces, par du tai chi, du stretching, par une perception corporelle fine. Et ça, pour moi, ce serait une des choses à voir. Mina, tu voulais parler ?
Oui, une quatrième piste, je dirais, c'est de profiter du mouvement aussi. Parce que voilà, tu parles de force, un mouvement, que ça soit planter un piquet dans le sol ou utiliser la grelinette. En fait, si on utilise l'énergie de notre corps en mouvement et l'énergie de l'outil aussi, qu'à son poids, par exemple, moi je préfère une grelinette de 5 dents, c'est peut-être lourd, mais finalement c'est pas moi qui porte, c'est l'outil qui va se planter dans le sol, et je profite du mouvement et de la dynamique. Et plutôt que d'arrêter le geste à un moment donné, et de repartir, de relancer, où c'est là où ça peut devenir douloureux pour le corps. Et finalement profiter du mouvement, du corps et de l'outil.
Ouais, ça aide dans la fluidité, quoi, dans la souplesse. Et puis toi tu dis être en forme physiquement, mais après c'est aussi faire en fonction de la forme qu'on a, quoi. Si on n'est pas très en forme, eh ben on fait un petit peu, ou progressivement, ou de plus en plus, quoi. Puis,
ça allait avec ce que je disais en début d'émission sur la question de prévoir son jardin en fonction de qui on est aussi, de ce qu'on, pas seulement en fonction de ce qu'on va manger, mais la manière dont on va le pratiquer, la manière dont on va circuler à l'intérieur. Il y a des aménagements qui peuvent être, si vous avez des soucis d'équilibre, c'est judicieux d'avoir des jardins où vous avez peut-être des pierres ou des choses qui vont, des allées qui ne seront pas pleines de boue, enfin, je veux dire, n'importe quoi, mais c'est un truc comme ça.
Oui, puis la taille du jardin aussi.
Parce et que la taille soit, du les jardin, gens, ils, on voit souvent très grand.
Ventre, forcément, ça va faire trop de travail, le temps disponible aussi, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi un truc que je trouve important qui, par rapport à l'ergonomie, c'est le plaisir qu'on va avoir à le faire, justement. Donc, si on y va dans l'esprit de dire « il faut que j'aille au jardin parce que je vais produire ce que je vais manger », c'est une chose. Mais si on y va parce qu'on aime être dedans, on va être plus détendu. Du coup, ça sera différent, quoi.
Donc, si on détaille de manière un petit peu plus spécifique, une brouette, ça ne se porte pas avec le dos, ça se porte avec les genoux. Non, mais on pourrait le dire avec tous les, avec l'ensemble de une bêche. En pratique, on évite de s'en servir, comme ça évite de se faire mal.
Sinon, on est en torsion. Hein. Le problème de la bêche, c'est que
et en plus, ça fait des torsions.
C'est la force, quoi.
Le louchet, c'est ça, le louchet. Non, j'ai appris un mot aujourd'hui, alors je suis très fier de
ça.
C'est un louchet, c'est ça.
Un louchet, c'est ça.
Un louchet, ça s'utilise en sautant dessus, ça s'utilise avec le pied.
Avec le pied, ouais.
Avec le pied plutôt que.
En lâchant comme les pilons.
On lâche comme un pilon. On peut lâcher la grelinette au démarrage.
Un pilon en Afrique, parce que nous, on pile pas souvent non plus avec un billot de bois, quand même. Enfin, parce que tu me fais le geste, là, du pilon, j'ai pas vu souvent de cuisinière auvergnate piler le mille. Donc ça s'utilise comme un pilon, le louchet, avec le pied en plus. Certaines sont assez jolies, assez commodes. Sur le rebord supérieur, pour éviter de couper les bottes, il y a de temps en temps un rebord rond.
Il y a un bon louchet
à un rebord. Si vous ne retenez qu'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci.
Mais après, on parle justement, parce qu'on parle de pilon, ça fait penser à l'Afrique. On est dans une approche européenne du jardin. Parce que, par exemple, en Afrique, les femmes, elles sont, même les hommes, enfin, c'est plutôt les femmes quand même qui bossent dans les jardins. Elles sont à quatre pattes avec la houe et elles n'ont pas plus mal au dos que nous. C'est simplement qu'elles sont plus souples. Enfin, elles n'ont pas les mêmes. Elles sont moins sédentaires. Il n'y a pas cette lourdeur, cette raideur qu'il y a quand même chez nous, due à la sédentarité beaucoup. Quoi.
Puis elles sont penchées, mais avec le dos
droit. Le dos reste droit et elles sont courbées. Voilà. Oui, mais elles sont pas à quatre pattes, non, mais elles sont courbées sans se faire mal au dos.
Le dos droit, le bébé
dans le dos, de toute façon. Donc, et les outils sont très courts. Mais voilà, si nous on se met à faire ça, d'abord on n'arrive pas parce qu'on n'est pas.
En fait, c'est une question d'habitude, de posture, de choses comme ça.
Et puis de vie aussi. Nous, on est quand même, enfin, globalement, dans l'ensemble, on est quand même très sédentaire. En plus, on mange beaucoup de choses qui rédifient.
Qui nous rendent roides.
Voilà, qui nous rendent roides.
Qui nous rend roides. Bon, en tout cas, on salue nos auditeurs qui nous écoutent depuis le merveilleux continent africain, parce qu'il y en a, on le sait, grâce aux statistiques de notre site internet. Et comme nous sommes diffusés grâce au réseau francophone de permaculture, figurez-vous que si vous avez des amis dans les centres permaculturels de ces zones-là, n'hésitez pas à leur parler de nous, parce que figurez-vous, on peut peut-être leur apporter quelque chose, et vice-versa.
Oui, tout ce qu'on a dit, c'est valable pour...
Ah, il y a quand même beaucoup de choses dans ce qu'on dit qui peuvent être utiles en milieu tempéré africain. Hein, je veux dire, on n'est pas obligatoirement dans des... Voilà, on ne parle pas beaucoup de jardins tropical ou subsahariens chez nous. On pourrait...
Mais on pourrait, parce que je vais prendre des outils à dents, faire tout ce qu'on a dit depuis le début dans les émissions, ça s'applique dans le monde entier.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent largement. Sinon, dans l'ergonomie, comment on tient bien une griffe tirer, parce que là, on a souvent parlé de enfoncer des choses, porter, mais tirer un râteau, c'est ça, parce que le râteau, c'est pareil, c'est une torsion quelque part. Est-ce qu'on tire avec le poids du corps? Comment on tire avec le poids du corps en fléchissant le genou, en ayant un pied derrière et on fléchit ou...
Porte un râteau.
La prochaine fois, il faut vraiment qu'on amène un râteau dans ce studio.
Du coup, je pensais à la faux quand tu parlais de la torsion. Parce que, par exemple, pour la faux, on va être en souplesse puis avoir un geste adapté. Quoi.
Mais on fait du tai chi quand on passe. C'est comme si on faisait du tai chi quand on passe la faux.
Si on se crispe et qu'on veut faire le mouvement justement avec le dos, et tout ça marche pas.
Il y a une très belle image qui circule un peu sur. Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, moi, forcément, vu que je m'occupe de ça pour cette émission, j'en vois passer des vertes et des très mûres. Et dans cette image-là, c'est le fitness de la permaculture et chaque outil est noté avec le nom des muscles qui fait bouger. Donc, si vous faites de la scie, c'est bon. Pas de la scie, si vous faites. Si, de la scie, c'est bon pour vos biceps et les dorsaux. Si vous faites de la cisaille, c'est les pectoraux. Donc, braves gens, si vous voulez avoir un corps de rêve, ayez un jardin bien entretenu. Des outils diversifiés. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont à savoir sur comment utiliser correctement son outil manuel sur certaines choses ou des choses qui sont complètement à éviter, je veux dire, dans le domaine.
Si je pense aux outils, pas la personne, mais aux outils, éviter de les laisser traîner dehors. On parlait de rangement tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le soin qu'on prend des outils, en retour, l'outil prend soin de nous. Hein,
En parlant de ça, une astuce que j'ai. Une astuce que. Voilà, c'est d'avoir des outils de couleurs vives. Parce qu'on a vite fait. Parce que moi, avant, j'avais une pelle qui avait un joli manche en bois, en fonte, etc. Noir. Sauf que le noir et le bois, il n'y a rien qui se perd mieux dans une plate-bande paillée. Donc, à force, j'ai mis un gros scotch orange fluo. Et il y en a certains où j'ai peint en jaune fluo. Comme ça, quand je pars de mon jardin, j'ai juste à faire un petit tour de regard. Parce qu'on a tout fait, en fait, de poser un petit outil quelque part. On va à l'autre bout de la plate-bande, puis on regarde, puis on ne sait plus où il est.
Les sécateurs.
Vous en avez avez perdu, avouez.
Régulièrement, c'est sûr.
Donc, gisement de sécateurs dans les jardins de Hélène et Méina, on saura. Enfin, voilà, c'est aussi une manière de faire. Je crois qu'on a fait le tour de cette question. Non, Hélène, encore
non, je regarde. Oui, non, c'est parce que je vois la scie à verre, là, que tu parlais des, des tailles.
Des tailles, oui.
Des tailles, le pommier, etc., de se mettre à hauteur pour tailler, pardon, de pas travailler à bout de bras.
Oui.
Parce que quelquefois, on travaille à bout de bras, même moi, enfin, je veux dire, mais ça tire l'épaule, et puis ça... De se mettre à prendre le temps d'aller chercher un truc pour grimper.
Moi, je prends un petit escabeau maintenant quand j'étais
jeune. Oui, voilà, mais il pensait quoi. Hauteur, parce que oui, moi, quand je me dis, oh, c'est bon, je suis assez grande et tout.
Il faut bien le caler par contre. Oui, sinon, on peut avoir c'est des mieux.
Oui, on va éviter de rester en vie. Hein, vous
mais encore dans les en tout cas, voilà, ça me faisait penser à ça.
Ouais. Éviter les extrêmes, choses comme ça. Oui. Bah, on peut dire que pour cette émission, on s'est appuyé sur un livre. Qui était, je ne sais plus s'il est encore édité,
oui, il a été réédité,
de chez
oui,
était moins de fois, le petit guide du jardinage biologique, potager et verger de Jean-Paul Dorez.
Ouais, je crois qu'il y a d'autres qui se sont ajoutés après.
Ouais, une fois qu'ils ont un grand succès, ils en font d'autres collections, les 4 saisons du jardinage.
Parce que il y a d'autres auteurs qui.
Ah, je crois qu'il y a Brigitte, il a complété.
Je sais pas quoi, ils sont. Mais en tout cas, il a été réédité il n'y a pas très longtemps, à Terre Vivante.
Brigitte Lapouche déjà, oui, qui a apporté dans le guide, qui a apporté tout le volet fleurs et arbustes.
Voilà, on va terminer là, oui, en sachant que on reparlera probablement des outils dans les émissions à venir. Peut-être que quand on parlera d'eau, on parlera des outils nécessaires nécessaires ou utiles à l'irrigation ou à la récupération de l'eau de pluie, j'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait parler des appareils qui ont besoin d'énergie extérieure, type électrique ou thermique, dans la mesure de ce qui est acceptable du point de vue agroécologique et permaculturel, c'est-à-dire pas grand-chose.
Oui. Une éolienne.
Ben, voilà, non, il y a peut-être des choses. Et en même temps, il faut savoir aussi prendre soin de soi pour pouvoir durer. Donc il y a un arbitrage à faire des fois. On en reparlera probablement une autre fois. Merci beaucoup, Titane, pour ton enregistrement.
Merci, Floem. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et à bientôt. C'était Couleur Terre, une émission binégrelinée grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée et enregistrée par Titane Houben aujourd'hui, animée par Floem Sev, c'est moi-même, de Radio Permaculture, avec Hélène Hollard et Méina Vernet du Jardin des Taupes Modèles. Non, c'est pas ça.
Si, si, c'est ça.
Si. C'est quoi ton site internet déjà?
Jardin vivant, jardin au pluriel. Tiret du milieu vivant au pluriel .com.
Ok, on mettra ça. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions et faire passer le mot à tous vos jardins partagés. Faites-le passer, cultivez la vie.
Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sev, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.